Et dans le sud de la France, elle avait plus de force encore que dans le nord de l'Italie. Et Antoine va être affronté à ces hommes et ces femmes qui ont dans la tête et du coup dans les pratiques de vie des idées contraires à ce que nous dit l'Évangile, à ce que nous enseigne l'Église depuis toujours. Il y a bien un Dieu du... Dieu a bien créé le monde, c'est le Dieu du bien, mais à côté de lui, il y a le Dieu du mal, et il y a deux dieux qui s'affrontent. L'homme est divisé dans sa... dans son regard sur Dieu, et puis, du coup, eh bien, les cathares pensaient que le corps ne valait rien, et c'était l'esprit qui devait être sauvé. Il y avait une sorte de séparation entre l'esprit et le corps. Alors, on faisait tout ce qu'on voulait avec son corps. Au dernier moment, on demandait à ceux qui avaient vécu l'ascèse, la pénitence, les purs, d'où leur nom de cathares, on leur demandait une sorte de consolation, on appelait ça le consolamentum, pour être sauvés. L'homme était divisé en lui-même et avec Dieu dans cette hérésie. Et voilà qu'Antoine va enseigner le Dieu Trinité d'amour, le Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Je pense qu'aujourd'hui, si Antoine revenait, l'hérésie cathare est morte pratiquement, il y a très peu de personnes sur la surface de la terre qui professent aujourd'hui l'hérésie cathare. Mais s'il revenait aujourd'hui, il trouverait une situation où l'homme est divisé aussi, où on ne sait plus qui est l'homme, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, qui est Dieu et le projet de Dieu sur l'homme. Alors il prêcherait la Trinité, il prêcherait le Verbe de Dieu incarné. Et puisque nous avons la grâce aujourd'hui de célébrer la fête de la Trinité, je vous invite ce soir à entendre, vous allez rester assis, je vous invite à écouter la très belle prière de Jésus. La prière que Jésus a faite juste avant de mourir et que saint Jean l'évangéliste nous a rapportée. Dans cette prière, c'est comme si on ouvrait le cœur de Jésus, enfin on faisait plus que l'ouvrir, on plonge dans son cœur et on entend et on voit, on goûte ce qui habite le cœur de Jésus, ce qui habite le cœur de Dieu pour nous. C'est tout Dieu. Et c'est tout Dieu pour lui en lui-même, mais c'est tout Dieu pour nous. On ne peut pas faire ça les uns pour les autres. Je ne peux pas plonger dans votre cœur pour savoir ce qui se passe et ce que vous pensez en ce moment en m'écoutant. Mais là, nous avons cette possibilité, si nous écoutons cette prière, comme tout l'Évangile et l'Écriture sainte, mais cette prière, c'est tout un résumé, mais c'est la prière de Jésus. Alors, nous l'écoutons, puis j'en ferai quelques commentaires après. Et pour l'écouter, restez assis. Et je vous invite à, si vous le voulez bien, vous êtes libre, fermez les yeux, ouvrez grand votre cœur, laissez-vous prendre par cette prière. Vous fermez les yeux, vous m'écoutez la dire, vous l'écoutez, puis vous vous laissez prendre. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui et comme tout ce qui est à toi est à moi. Et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux-là qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi je sois en eux. Voilà le dialogue entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Notre Dieu n'est pas un solitaire. Nous confessons que Dieu est le seul, il est l'unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Mais il n'est pas un solitaire. S'il était en lui-même un solitaire, je pense que nous aurions des raisons de le craindre. Notre Dieu en lui-même, nous venons de l'entendre, c'est une communion de personnes. Jésus parle à son Père comme à un égal. Et pourtant, il est différent, il est le Fils. Mais la différence ne fait pas qu'il est moins que le Père. Le Père a tout donné à son Fils. Et le Fils a tout reçu de son Père. Ils sont trois, parce que ici on n'emploie pas le mot Esprit Saint dans la prière, mais quand Jésus dit « la gloire que tu m'as donnée », la gloire de Dieu dans la pensée de Jésus, c'est son esprit d'amour. L'esprit qui procède du Père et du Fils, comme on le dit dans le Credo, ils sont trois, c'est une communion d'amour. Alors, c'est un grand mystère. Le mystère, ce n'est pas ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et plus on entre dans le mystère, plus on s'en réjouit. Mais vous, les époux qui vous aimez, vous savez cela. Plus vous avancez dans la vie, plus l'amour qui vous unit, mais vous dépasse. Et en même temps, il grandit. C'est les deux. Eh bien, il en est ainsi pour Dieu. Il est amour, il est Dieu amour. Alors, pensez que Dieu est un. Le Fils n'est pas moins que le Père n'est pas au-dessus et plus grand que le Fils. L'Esprit n'est pas non plus moins que le Fils et le Père. Ils sont un et trois. C'est une circulation d'amour entre les trois. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette prière admirable que nous sommes tous concernés, que nous habitons le cœur de Dieu. Mais que nous ne l'habitons pas comme si nous étions prisonniers d'une famille ou d'une communauté. Dans cette prière, nous ne sommes vraiment pas des prisonniers, puisque quand Jésus s'adresse à son Père, à notre sujet, il dit à son Père, « Ce que tu m'as donné, je les ai reçus. Et aujourd'hui, je te les donne, je les ai gardés. » C'est une garde d'amour, pas comme on garde un trésor dans un coffre, comme on garde, comme le fiancé garde sa fiancée, comme l'époux ou l'épouse se gardent mutuellement. Nous sommes donnés et nous sommes reçus, nous sommes donnés par le Père, nous sommes reçus par le Fils. Et le Fils, il est dit dans cette prière, que le Fils nous a tout donné ce qu'il a reçu du Père et qu'il demande au Père de nous donner sa gloire. Vraiment, nous sommes aimés, mais vraiment pas forcés d'aimer. Et nous ne sommes surtout pas prisonniers de notre Dieu. Voilà comment Jésus parle de nous dans sa prière à son Père. Lui n'a qu'un désir, après avoir accompli sa mission, c'est de retourner au Père. De retrouver cette gloire, parce qu'après l'anéantissement qu'il a vécu en acceptant d'être homme, mais il veut remonter au Père, pas tout seul, parce qu'il est amour, avec nous, avec la création tout entière. Ce qui montre bien que nous sommes faits pour habiter la Trinité. Notre vraie demeure, c'est d'habiter la Trinité. Voyez, on pourrait méditer longuement sur ce mystère de Dieu Trinité et notre relation. Rien qu'en écoutant cette prière, on découvre des choses extraordinaires sur qui est Dieu et qui est l'homme. Donc, Dieu est un, il est communion d'amour. Et nous savons bien, frères et sœurs, que le bien le plus précieux entre nous, hommes, c'est l'unité, pas l'uniformité. Vous voyez, le Père, c'est pas le Fils, comme dit saint Antoine de Padoue quand il en parle. Il parle du Père comme du principe, c'est un mot abstrait, mais il emploie aussi ce mot plus concret. Il est la source de la vie dans la Trinité. Il est la source de qui tout procède. Et il parle du Fils comme de la beauté de celui qui reçoit la vie. Et à propos de l'Esprit-Saint, Antoine parle de la joie. C'est dans la prière de Jésus, hein, pour que ma joie soit en eux et puis qu'ils en soient comblés. L'Esprit-Saint, c'est le bonheur, c'est Dieu en nous, c'est Dieu qui vit en nous. Voilà, donc l'unité en Dieu, ce n'est pas l'uniformité, mais ce n'est pas non plus la séparation, parce qu'à ce moment-là, il y aurait trois dieux. Tout ce qui est au Père est au Fils, le Fils n'est pas moins Dieu que le Père, et le Père n'est pas moins Dieu que le Fils. Et l'Esprit-Saint, il est aussi Seigneur, même adoration et même gloire, on dit dans le credo. Donc ils ne sont pas trois dieux, ils ne font qu'un, et ils sont différents en eux-mêmes, et ils sont trois. Alors, nous savons bien, frères et sœurs, quand on médite sur ce mystère, que ce qui nous est le plus cher entre nous, c'est de vivre l'unité entre nous, la communion entre nous. Ce après quoi nous courons désespérément, c'est que nos guerres finissent et que, enfin, l'amour, communion entre nous s'établisse. Que de guerres dans les familles, que de guerres entre les peuples, que de guerres en nous-mêmes, en moi-même. Dans chacune de nos personnes, nous avons du mal de trouver notre unité entre notre cœur et notre corps, entre nos pensées et tout ce que nous voudrions ou tout ce que nous devrions faire. Nous sommes des humains à la recherche de l'unité et de la communion. Nous savons que c'est le bien le plus précieux. Je pensais, en préparant cette prédication, à une famille que j'aime beaucoup, et que tout le monde aime beaucoup d'ailleurs. Vous la connaissez un peu, cette famille, c'est la famille de Bernadette Soubirous. Hein ? Alors on a souvent présenté un peu, avec justesse, mais trop accentué, le fait que Bernadette était la plus pauvre de Lourdes. C'est vrai, ils étaient dans la misère, c'est vrai. Mais chez papa et maman Soubirous et dans la famille Soubirous, on s'aimait. Il y avait une grande qualité d'amour. Il y avait une grande communion entre les parents et les enfants, entre les époux. Et d'ailleurs, le papa Soubirous, il avait refusé la fille aînée qu'on voulait absolument lui faire marier. Non, il aimait Louise. Alors, elle était beaucoup plus jeune, mais il aimait Louise, il l'aimait vraiment, il l'a aimée jusqu'au bout. Et Bernadette, elle était certes dans la misère, justement, parce que papa et maman Soubirous avaient été un peu trop généreux, peut-être une forme d'inconscience aussi, dans la gestion de son métier, là. Je ne reviens plus. Il était meunier, voilà. Mais ils s'aimaient, et ils se sont aimés jusqu'au bout. Ce qui fait que Bernadette, qui avait déjà goûté au sein de sa famille la communion d'amour, pas parfaite, bon, ils n'étaient pas parfaits comme chaque, mais il y avait une vraie communion d'amour, et qui en plus, dans la grotte, va rencontrer la Vierge Marie, va être, elle ne pourra pas mettre des mots tout de suite dessus parce qu'elle a pas d'instruction, mais au moins elle a l'expérience, elle rencontre la Vierge Marie, elle rencontre celle qui est toute habitée par la Trinité Sainte et qui habite la Trinité Sainte, corps et âme, cœur et corps, corps et âme. Bernadette en est complètement transformée. Une des choses qu'elle va dire d'ailleurs avec ses mots à elle, quelques temps plus tard, à ses sœurs à Nevers, elle me parlait comme une personne. Voilà. Elle se trouve en face de Dieu qui habite le cœur et le corps de la Vierge Marie. Et Dieu, à travers la première dame du ciel, si vous me permettez l'expression, vient s'adresser à elle, qu'on traitait pour une moins que rien, et je vous passerai certains mots qu'on employait à son sujet, elle me parlait comme une personne. Alors Bernadette, qui a découvert et qui va vivre de cette communion avec Dieu à travers ce qu'elle va apprendre de la Vierge Marie, puis après à travers sa formation chrétienne et sa formation religieuse, Voilà une Bernadette qui va être farouche, mais vraiment farouche, pour refuser tous les biens matériels qu'on voulait lui donner, parce qu'elle avait vu la Sainte Vierge, alors elle allait s'enrichir. Alors s'il y en a une qui ne s'est pas enrichie sur le dos du bon Dieu, ça c'est vraiment Bernadette. Parce qu'elle avait compris que les biens de la terre, ils sont nécessaires, et on a aidé la famille Soubirous, après il fallait le faire. Si les biens de la terre sont nécessaires, ils ne sont rien à côté de ce trésor qu'est l'unité, la communion d'amour. Et quand Dieu nous a créés, c'est cela qu'il a voulu. Et c'est cela que notre monde est en train de perdre, je le dis sans juger personne, ni sans condamner encore moins personne. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de perdre dans notre société, et c'est pourquoi l'Église se bat à travers l'enseignement de nos papes différents. La beauté et la grandeur de ce que Dieu a fait quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, pour être à la fois différent, homme et femme, l'homme c'est pas la femme, la femme c'est pas l'homme, mais en même temps ils sont égaux en dignité, pour être un dans la communion. Et je voudrais ici, si vous me permettez, justement regarder, contempler un peu avec vous ce mystère. Quand Dieu crée, il nous est dit dans la Genèse, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il les créa homme et femme. Et dans les deux récits de la création, on a aussi cette parole de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah oui, je vous l'ai dit, si Dieu était solitaire, il serait dangereux. Il est une communion d'amour. Il les crée à son image et ressemblance. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire, dit Dieu, une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Alors, le récit de la création se poursuit et on nous dit que de la côte d'Adam, Dieu créa la femme. C'est une image. Il y a un jeu de mots en hébreu, il y a le jeu de mots aussi en français. Elle est tirée du côté d'Adam pour être à côté de l'homme. Si elle est tirée du côté d'Adam, c'est une image pour dire qu'elle est de la même race qu'Adam. D'ailleurs, Adam, quand il va voir sa femme, premier cri d'émerveillement d'un homme devant une femme, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Il et elle sont à égalité dans la dignité. Mais pour être une aide semblable à lui, il faut être différent. Et la femme est établie différente de l'homme, à côté de l'homme, pour être, comme on va le découvrir peu à peu dans la Bible, la médiatrice de la vie. D'ailleurs, l'expression même du texte de la création, c'est que la femme est bâtie comme un temple pour recevoir la vie, pour donner la vie, pour transmettre la vie. Alors c'est vrai, cela s'exprime d'une manière admirable à travers le couple et le mariage, mais c'est valable pour toute femme. Toute femme est une médiatrice de vie. Elle est à côté de l'homme et ils ne feront plus qu'un. Le rêve de Dieu en nous créant différents, c'est que nous soyons des aides les uns pour les autres et pour être un. Alors si vraiment on prend conscience de ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a inscrit dans la nature de l'homme. Et la Bible, Jésus-Christ, ne fera que révéler, qu'expliquer cela. Eh bien, on ne peut pas vivre n'importe quoi dans le couple, en formant un couple. On ne peut pas former n'importe quel couple. Ce n'est pas vrai. Il peut y avoir de l'amitié entre des personnes. Mais vraiment, un couple à l'image, à la ressemblance de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est loin, ou on s'éloigne plus exactement, de ce projet d'amour de Dieu, hein, où nous sommes faits pour être en communion les uns avec les autres, dans la différence. Alors, il nous faudrait encore beaucoup creuser cela, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais recevons ce soir comme bonne nouvelle pour chacun d'entre nous et pour notre temps, que nous sommes faits pour être en communion avec Dieu d'abord. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'être en communion avec Dieu. Je me souviens d'un couple qui vivait déjà bien sa vie de couple, qui avait des enfants, et puis ils ont vécu ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de deuxième conversion. Ce sont des amis personnels. Mais quand Dieu a vraiment été ce vivant, cette communion d'amour, cette Trinité sainte dans leur couple, ils m'ont dit tous les deux, cela nous a fait grandir dans notre amour mutuel. Dieu ne vient pas nous empêcher d'être heureux, au contraire, il vient accomplir ce qu'il a fait dans sa création. Donc demandons déjà pour chacun d'entre nous de découvrir cette communion d'amour avec le Dieu Trinité qui va nous donner notre unité déjà en nous-mêmes et puis qui va du coup nous donner aussi cette unité, cette communion les uns avec les autres. Vous savez, l'unité entre les hommes, l'unité dans nos communautés, l'unité dans nos couples, on ne la fera pas, j'allais dire à coup d'efforts volontaristes, avec des moyens où il faut certains moyens. Je pense profondément avec l'Église, c'est l'enseignement de l'Église, que nous ferons l'unité en nous-mêmes et entre nous en recevant cette parole, l'Évangile, l'enseignement de l'Église, et en recevant l'Esprit Saint, en demandant l'Esprit Saint. Alors oui, nous connaîtrons ce bonheur, j'ai cité Bernadette, mais on pourrait citer tant d'autres personnes, tant d'autres témoins, lorsqu'ils ont vraiment rencontré Dieu, lorsqu'ils ont vraiment communié à cette Trinité d'amour, il y a une unité qui s'est faite, il y a des relations qui se sont rétablies. Je pense à ce jeune qui avait 25, 28 ans, je le revois encore dans une prédication de retraite, il était encore tout marqué de sa galère, de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qui sortait, mais il avait rencontré Jésus. Et cette rencontre avec Jésus, peu à peu, l'a transformé complètement. Et c'est devenu un autre homme. Il n'a pas quitté la jeune fille avec laquelle il vivait. Ils ont mis les choses d'aplomb. Ils se sont mis d'aplomb et ils sont heureux. Que ce bonheur, il est là. C'est à nous de le prendre, c'est à nous de nous y ouvrir. Dieu est là, comme dit encore une fois Antoine de Padoue. Vraiment, Dieu sait s'il l'a dit, Antoine. Dieu est là pour notre joie, pour notre bonheur, si du moins nous le prenons tel qu'il est. Ne faisons pas Dieu à notre image. C'est nous qui sommes faits à son image.